Chers amis auditeurs, c'est une grande joie de vous accueillir de nouveau cette semaine, en ce jour où nous fêtons les Baudouins. L'émission Magnificat vous est proposée par l'association Marie de Nazareth. Vous trouverez toute notre actualité sur la page actualité de notre site mariedenazareth.com. Alors depuis plus d'un an, nous avons lancé le mail quotidien de Marie qui défait les nœuds. Je vous invite à vous y abonner car une vraie communauté proche de cette dévotion se crée actuellement. Donc n'hésitez pas, vous verrez toutes les modalités pour vous inscrire sur notre site mariedenazareth.com. Alors aujourd'hui, Justina nous parlera de cette lettre aux Hébreux attribuée à saint Paul, même si tout le monde sait que ce n'est pas lui qui l'a écrite. Bonjour Justina.
Bonjour.
Merci de nous accompagner cette semaine encore. Vous êtes notre théologienne, enfin spécialiste en théologie maison. Nous allons découvrir votre commentaire d'ici quelques secondes. Ensuite, j'aurai la grande joie d'accueillir Régis. Régis Delassu, merci d'être à nos côtés.
Bonjour.
Bonjour Régis. Alors, vous allez nous parler de Salve Corda, puis un peu nous secouer pour que nous puissions répondre aux demandes de la Vierge Marie les premiers samedis du mois.
Tout à fait.
Alors, Justina, à présent, écoutons cette lettre aux Hébreux que ceux qui se sont rendus à la messe Paul VI aujourd'hui ont entendue.
Oui. Le Christ abroge le premier régime pour fonder le second, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et offrant maintes fois les mêmes sacrifices qui sont absolument impuissants à enlever les péchés. Lui, au contraire, ayant offert pour les péchés un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Car par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Or c'est l'Esprit Saint lui aussi nous l'atteste, car après avoir déclaré « Telle est l'alliance que je contracterai avec eux après ces jours-là », le Seigneur dit « Je mettrai mes lois dans les cœurs et je les graverai dans leurs pensées. Ni de leurs péchés, ni de leurs offenses, je ne me souviendrai plus. » Or, là où sont les péchés sont remis, il n'y a plus d'oblation pour le péché. Ayant donc, frère, l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire par le sang de Jésus, par cette voie qu'il a inaugurée pour nous, récente et vivante à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et un prêtre souverain à la tête de la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs nettoyés de toutes les souillures, d'une conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure. Alors aujourd'hui, j'ai lu un fragment de l'Épître aux Hébreux, et afin de simplifier ma démarche, je me suis permise d'élargir un petit peu la lecture par rapport au texte lu dans les églises donc catholiques romaines de rite Paul VI. Premier point important, nous n'avons aucune certitude que ce texte a été écrit par l'apôtre Paul lui-même, pour plusieurs raisons. La langue grecque de l'Épître est impeccable, contrairement à celle de Paul dans ses autres épîtres. L'Épître ne contient pas les salutations traditionnelles ni le nom de l'auteur. Comme nous avons l'habitude de les lire dans les autres épîtres, le langage théologique et les références utilisées ne sont pas typiques pour Paul, qui se réfère plus à son propre expérience et de rencontre mystique avec le Christ que sur les références vétérostémentaires, car même si Paul en fait mention, il se sert du Tanakh essentiellement comme d'un avant-propos. Et la question de l'authenticité n'est point une question qui serait de provenance de la part des théologiens modernistes. Même Origène, au IIIe siècle, se permettait de dire que seul Dieu sait qui est réellement l'auteur de ce texte. Mais nous pouvons tout de même déduire que l'auteur est lui-même juif, qu'il a reçu une brillante instruction et qu'il s'adresse aux judéo-chrétiens dans la diaspora. Et très probablement, cette diaspora pouvait contenir des personnes issues de tribus de Lévi, la tribu vouée à la prêtrise vétérostémentaire. Très probablement, cette communauté connaissait une crise spirituelle et peut-être même avait une envie de revenir aux pratiques du temple. Je rappelle que les pratiques du temple consistent au sacrifice essentiellement, et c'est une véritable boucherie. C'est vraiment des sacrifices continuels, puisque l'auteur insiste tant sur la prêtrise du Christ selon l'ordre de Melchisedec dans l'Épître et le caractère ultime de son sacrifice en tant qu'à la fois prêtre et offrande, et en sacrifice ultime rend par définition tout autre sacrifice inutile, voire blasphématoire. Comment cela, le sacrifice ultime ne vous suffit pas? Vous souhaitez vous cacher derrière les cadavres brûlés des taureaux afin de vous sentir pur et digne? Et c'est bien cela le problème, on veut toujours se cacher sous un buisson comme l'ancien Adam ou le pharisien derrière les traditions. Quelque chose a-t-il changé aujourd'hui? Si vous observez un peu autour de vous, vous verrez bien que non. Des personnes baptisées, ils se trouvent heureusement communient régulièrement, peuvent parfois se vanter. Ah, j'ai tenu, bon, ça c'est pour les orthodoxes, j'ai tenu 2 heures lors de la liturgie, j'ai mal aux jambes, ça doit plaire à Dieu. D'autres diront quelque chose de similaire, je suis resté sur les genoux à prier pendant 2 heures, j'en garde des bleus, voici mon sacrifice à Dieu. Dieu n'a pas besoin de vos sacrifices, on le sait encore depuis le psaume 50, au moins. Mais visiblement, ceci n'a pas été assez clair et qu'il aurait fallu que Dieu se fasse homme afin de nous montrer comment nous, humains, sommes capables de le traiter une fois qu'il est venu parmi nous. Il aurait fallu qu'ensuite le saint apôtre Paul, ainsi que d'autres auteurs anonymes, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, les pères apostoliques, les pères de l'Église, rédigent une bibliothèque entière et que les chrétiens occidentaux essentiellement, mais pas que, développent la théorie juridique de justification afin de rappeler ce message aussi simple, assez de sacrifices. Vous voulez jouer au sacrifice? Dieu lui-même, dans son humilité, s'est fait homme pour jouer avec nous à ce jeu, afin d'en finir une fois pour toutes avec nos préjugés et nous laisser la possibilité de passer aux choses sérieuses. C'est se greffer à lui comme au nouvel Adam et par sa grâce devenir comme lui ce qu'il est depuis toute éternité, divin. Dieu s'est fait homme afin que l'homme puisse devenir Dieu, saint Irénée de Lyon.
Alors, une petite précision quand même, la mortification n'est pas mauvaise.
C'est pas ce que je dis, parce que sans chercher à rentrer dans le débat, chaque moyen ascétique peut être utile aux personnes, mais il faut bien comprendre, ce n'est pas Dieu qui a besoin de cette discipline pour être Dieu, c'est toute personne peut éprouver un besoin d'une certaine pratique ascétique ou d'une discipline spirituelle pour être mieux et pour se rapprocher de Dieu. Mais ça, c'est autre chose. L'être de Dieu n'en dépend pas. Et sa bonté non plus. Voilà, c'est essentiellement ça que je veux dire.
Merci pour cette précision. Alors, à présent, nous allons savourer ce doux chant « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime » de Claire Lauvergne.
Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Notre-Dame du Rosaire, vous qui êtes apparue à Fatima, convertissez nos cœurs de pierre, changez nos ténèbres en lumière, et l'on verra fleurir des roses de prière, des roses de lumière pour vous, notre tendre mère, pour vous, notre tendre mère.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Rebonjour Régis.
Et rebonjour.
Alors, vous êtes ancien pilote de l'aéronautique navale, puis cadre en entreprise et aujourd'hui entrepreneur dans la cybersécurité. Marié, heureux grand-père de 10 enfants, de 10 petits-enfants. Et alors, si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes coordinateur de l'Alliance autour des premiers samedis du mois de Fatima, avec Salvé Corda, dont je parlais tout à l'heure. Vous avez une famille très engagée religieusement. Alors, un frère qui dirige Cap Fatima, merveilleuse newsletter que nous recevons tous les mois, et auteur de nombreux livres sur Fatima. Un frère, dont Dismas, qui est prieur général chez Chartreux, et une sœur qui est aussi votre marraine.
Tout à fait.
Qui est carmélite.
Et qui est carmélite à Créteil, pas très loin.
Et nous parlions du Carmel la semaine dernière. Donc voilà, nous sommes dans la suite logique. Alors nous allons parler d'un événement lié à Fatima qui arrive en 2025. Les 100 ans des demandes des premiers samedis du mois par la Vierge Marie. Le 10 décembre 1925 à Sœur Lucie. Alors rappelez-nous d'abord pourquoi parler de Fatima aujourd'hui ?
Alors, depuis un siècle, Fatima est une des apparitions les plus reconnues par l'Église. Les 5 derniers papes y sont tous allés en pèlerinage. Jean-Paul II a été sauvé, hein, une date liée à Fatima. Et plusieurs papes ont voulu rencontrer Sœur Lucie en tête-à-tête. Les papes ont consacré plusieurs fois le monde au cœur immaculé de Marie avec les évêques du monde entier. Bref, tout ceci est assez unique hein, dans la prise en compte d'une apparition dans la vie de l'Église. Et puis surtout, il y a cette magnifique parole de Benoît XVI lorsqu'il est parti en pèlerinage à Fatima. Et le 13 mai 2010, il dit ceci « Celui qui croirait que la mission prophétique de Fatima est achevée se tromperait.
» Alors, comment définir en quelques mots Fatima ?
Alors, c'est la Sainte Vierge qui l'a tout simplement définie. Et le 13 juillet, elle a fait cette grande demande qui, en fait, résume tout. Et je la cite. « Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé de Marie. » Alors, nous voyons la puissance de cette demande. Le terme « Dieu veut » montre une volonté divine. Et « dans le monde » montre son caractère universel. Et ensuite, ce même jour, elle a expliqué comment est-ce qu'elle voulait qu'on exprime et qu'on réalise cet acte d'amour qui est cette dévotion auprès du cœur immaculé de Marie. Et donc, elle a fait 2 demandes au pape et plusieurs aux fidèles, en particulier pour les fidèles, le rosaire et les premiers samedis du mois. Voilà. Et elle donnera des conséquences bénéfiques si on suit ces demandes, qui sont entre autres la réparation des offenses, bien sûr, qui lui sont faites, mais aussi l'arrêt des guerres et la conversion des pécheurs, et enfin sa propre sanctification. Et on voit là les 3 niveaux de charité, la charité envers Dieu, la charité envers les autres et la charité envers soi-même.
Alors, pourquoi est-ce que Fatima est si important ? On le comprend bien avec ces 3 conséquences, mais...
Alors là aussi, on va laisser maintenant, cette fois-ci, Sœur Lucie expliquer véritablement pourquoi c'est si important. En fait, le sort du monde va dépendre de notre réponse à Fatima. Et Sœur Lucie, en 1939, va parler des premiers samedis en disant ceci. « De la pratique de cette dévotion, unie à la consécration au cœur immaculé de Marie, dépendent pour le monde la paix ou la guerre. Cela signifie que Dieu veut que ce soit cette dévotion et non une autre. » Et nous sommes en mars 1939 quand elle écrit ça. Et ensuite, en 1957, elle ajoutera « La Sainte Vierge a dit aussi bien à moi-même qu'à mes cousins que Dieu donnait les 2 derniers remèdes au monde, le Saint-Rosaire et la dévotion à mon cœur immaculé de Marie, et ceci étant les 2 derniers remèdes, cela signifie qu'il n'y en aura pas d'autre. » Donc si on résume, Dieu veut que ce soit ce moyen et non un autre, et il n'enverra pas d'autres moyens, d'autres remèdes, pour résoudre la crise profonde que nous vivons aujourd'hui. C'est vraiment l'essence des paroles du pape Benoît XVI, qui montre que Fatima, eh bien, c'est aujourd'hui.
Alors face à cet enjeu majeur, Fatima, quelles sont les actions à faire en priorité ?
Alors la Sainte Vierge nous les a données, justement, ce 13 juillet, lorsqu'elle a dit qu'il fallait absolument réciter le chapelet tous les jours, donc le rosaire, premier moyen. Et le deuxième...
Alors, le chapelet ou le rosaire ?
Alors, le chapelet tous les jours, absolument. Très bonne question. Mais le chapelet est en partie intégrante, en fait, du rosaire. Voilà. Mais elle a insisté sur cette demande, prier le chapelet tous les jours. Voilà, ça c'est la deuxième demande donc, qui est associée, c'est vraiment les premiers samedis du mois. Il faut savoir que Notre-Dame a fait cette demande, et c'est la seule demande qui est commune au pape et aux fidèles. C'est-à-dire qu'aux fidèles, elle va demander de réaliser ses premiers samedis du mois, et au pape, elle va le demander de l'officialiser et de la recommander dans toute l'Église. D'où cette importance absolument particulière de ce moyen.
Alors, lorsqu'on discute, j'ai l'impression que les catholiques savent bien que c'est une demande de Fatima, cette prière quotidienne du chapelet. J'ai l'impression qu'on connaît moins la dévotion du premier samedi du mois.
Oui, c'est tout à fait vrai, parce qu'en fait, on n'en parlait pas beaucoup. Et oui, surtout, au début, cette dévotion a été vécue un petit peu comme une dévotion personnelle que l'on faisait, je dirais, discrètement, en fait. Voilà. Alors qu'en réalité, il faut au contraire l'officialiser pour être conforme à la demande de la Sainte Vierge. Voilà. Alors, la façon dont ça s'est passé est importante, parce que le 13 juillet 1917, après avoir demandé la dévotion à son cœur immaculé, la Sainte Vierge, très curieusement, a parlé au futur. Et elle a dit la phrase suivante: « Je viendrai demander la dévotion des premiers samedis du mois et la consécration de la Russie. » Alors, ça peut paraître très étonnant, mais pourquoi la Sainte Vierge a parlé au futur et n'a pas fait la demande le jour même?
Oui, pourquoi?
Alors, c'est une question, on pourra l'aborder. C'est, en fait, le sujet n'a pas été traité. Hein, c'est une question qui est en suspens. Il y a bien évidemment des réflexions qui sont dessus. Mais ce qui est important, c'est la suite, c'est-à-dire que huit ans plus tard, le 10 décembre 1925, la Sainte Vierge va venir demander les premiers samedis du mois. Et puis le 13 juin 1929, elle va de nouveau apparaître à Sœur Lucie, et cette fois-ci, elle va lui dire qu'il est temps de consacrer la Russie à son cœur immaculé Marie. Donc, nous voyons encore une fois que Benoît XVI a raison pour dire qu'on est dans le temps de Fatima, puisqu'il y a trois dates finalement autour de ce grand message de Fatima. Il y a 1917, avec les 6 apparitions, et puis il y a 1925, et enfin 1929. Et nous voyons que nous avons passé le centenaire de Fatima, qui était en 1917. Oui. Eh bien, nous sommes l'année prochaine dans le centenaire des premiers samedis du mois, 2025. Et en 2029, nous fêterons l'anniversaire, nous célébrons cet anniversaire de la consécration de la Russie.
Parce que la consécration de la Russie a été faite.
Alors, trois papes ou se sont approchés de cette consécration, après un contexte géopolitique qui la rendait pas forcément facile. Mais Pie XII a lancé une consécration du monde. Et on voit que même si ce n'était pas tout à fait la demande de la Sainte Vierge, eh bien, il y a eu un effet. C'est-à-dire que le tournant de la guerre est arrivé à ce moment-là. Donc on voit que la Sainte Vierge, c'est une mère, hein, dès qu'on se rapproche de ce qu'elle demande, même si on ne fait pas exactement ce qu'elle a dit, elle va tout de suite donner un effet bénéfique. Mais après ça, il faudra quand même un jour ou l'autre faire exactement ce qu'elle a demandé.
Ma question était un peu polémique, vous l'avez peut-être senti ou pas, parce qu'on en parle beaucoup de cette consécration de la Russie.
Alors, c'est vrai que je vais citer une parole de Sœur Lucie qui permet d'amener une forme de réponse, même si le sujet, effectivement, est de façon assez normale d'ailleurs, hein, est débattu. Mais Sœur Lucie dira à un moment: il faut consacrer la Russie, juste la Russie, rien que la Russie. Et elle expliquera que cette consécration de ce pays particulier, eh bien, montrera la puissance du cœur immaculé de Marie.
Très bien. Alors, que devons-nous faire exactement les premiers samedis du mois? Alors, nous, en tant que fidèles, et puis les prêtres?
Absolument. Alors, la Sainte Vierge a été très précise, en fait. Donc, elle a demandé 4 actes. Et ces 4 actes que l'on doit réaliser les premiers samedis du mois sont en fait un condensé de la vie chrétienne. C'est ça qui est absolument merveilleux. Donc, le premier acte que demande la Sainte Vierge le premier samedi du mois, c'est de communier. On voit qu'elle met au sommet l'Eucharistie, ce qui est parfaitement logique. Ensuite...
Oui, elle dit communier, elle ne dit pas aller à la messe.
Non,
elle
tout
dit
à fait.
Communier.
Elle parle bien de la communion.
Ça veut donc dire quelqu'un qui ne peut pas suivre une messe pour une raison, je ne sais pas, mais qui a la possibilité de communier.
Eh bien, il peut tout à fait réaliser
à la
absolument.
Demande de la Vierge Marie.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est la première chose, le sommet de cette dévotion, hein, de ce qu'on appelle la communion réparatrice des premiers samedis du mois.
Ouais.
Ensuite, vient juste après, eh bien, la récitation du chapelet.
Quotidien, mais ce jour-là particulièrement.
Particulièrement ce jour-là. Et donc, il a une force particulièrement importante, parce que c'est elle qui l'a demandé. Vient ensuite une troisième demande qui est très belle, parce que la façon dont elle l'exprime est assez magnifique, et elle va dire lui tenir compagnie pendant 15 minutes, en méditant un mystère du rosaire.
Alors, j'ai une question là.
Allez-y.
Est-ce que nous devons être devant le tabernacle pour cela, ou alors chez soi, ça suffit?
Alors,
parce que j'ai entendu les deux versions.
Alors, la Sainte Vierge n'a jamais rien spécifié,
oui.
Et donc nous avons une liberté totale. C'est-à-dire que pour réaliser ces premiers samedis, on peut tout à fait juste communier, puis ensuite dire son chapelet à un autre moment de la journée, et méditer à un autre moment de la journée chez soi. Mais il est vrai que dans le cadre, et on en reparlera tout à l'heure, de l'officialisation des premiers samedis, il est quand même très beau de le faire en communion, justement, en église, dans, quand on le peut, hein, bien évidemment, dans la même église où on a communié, parce que ça prend une valeur véritablement d'officialisation. Et puis le dernier acte qu'elle a demandé, c'est la confession. Donc on voit un petit peu toute cette vie chrétienne, hein, qui se déroule dans ces quatre demandes. Sachant que bon, cette confession, Sœur Lucie avait posé la question, parce que le jour même, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc, le Christ lui a répondu en disant qu'on pouvait la faire 8 jours avant ou même plus, du moment qu'on est en état de grâce, le jour de la communion. Et enfin, dernière petite précision très importante, il faut que ces quatre actes soient faits dans un esprit de réparation des offenses qui lui sont faites. Voilà, le cœur des premiers samedis du mois, c'est d'abord un acte de charité qu'on pose vis-à-vis de notre Mère du Ciel qui est si offensée aujourd'hui. Voilà, on a tous en mémoire cette caricature épouvantable où Notre-Dame a été insultée comme jamais ça n'est arrivé pratiquement dans l'histoire, hein, au mois d'août. Eh bien, vous voyez, on a posé cet acte de réparation, voilà, ce qui est très important.
Alors, tout à l'heure, je disais, en tant que fidèle ou en tant que prêtre, l'idéal, alors sur ma paroisse, nous avons un prêtre qui, tous les premiers samedis du mois, organise la confession, nous avons la messe, nous pouvons adorer. Voilà, c'est quand même très pratique. Il faut que nous poussions nos prêtres à faire ça.
Alors, on a en fait un rôle, et bien évidemment, une sorte de rôle missionnaire. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a créé l'Alliance des premiers samedis du mois. Le but étant justement de créer des groupes de laïcs pour ne pas peser sur l'emploi du temps du prêtre, parce que les prêtres aujourd'hui sont extrêmement pris, donc il faut que les laïcs se prennent en main. Et donc ces groupes sont bien dirigés par des laïcs, c'est eux qui en parlent, etc., qui fixent les horaires en accord avec le prêtre, et qui ensuite se déplacent pour la messe le samedi matin, dite par le prêtre. Et évidemment, lorsqu'il y a une osmose entre le prêtre et les fidèles, c'est formidable parce que ça se développe merveilleusement bien. Il peut y avoir aussi des cas où le prêtre soit n'y est pas très attaché, soit n'a pas le temps, etc. Dans ce cas, de toute façon, les fidèles font leur rôle, ils assistent à la messe du prêtre, vont communier et ensuite vont réciter le chapelet et faire les 15 minutes de méditation.
Je suis peut-être un peu dogmatique, mais pardon. La messe anticipée est-elle valable ou c'est vraiment la messe du samedi ?
Alors, vous avez presque répondu à la question tout à l'heure, puisque comme la Sainte Vierge a parlé de la communion,
oui.
Peu importe que ce soit la messe du matin ou la messe anticipée.
Oui, mais samedi, c'est le jour de la Vierge Marie, donc la messe est dite ce jour-là.
Alors, c'est pour ça que c'est mieux quand c'est le matin, parce que c'est la Vierge Marie. Allez-y.
Mais petite précision théologique, de toute manière, dans la perception biblique du monde, le jour arrive la veille, au coucher du soleil, donc même vendredi soir, c'est déjà samedi.
Oui, alors on va rester à ce qu'a dit la Sainte Vierge. Elle a vraiment parlé des premiers samedis du mois et il y a une raison pour cela.
Oui.
La raison, elle est très très belle. Pourquoi la Sainte Vierge est venue demander les premiers samedis ? Parce que c'est une question que beaucoup de gens nous posent. On va laisser, en fait, l'agonie de le samedi, pardon, c'est vraiment le jour de la Sainte Vierge. Le vendredi, nous savons que c'est le jour du Christ, c'est sa mort, etc. Et le samedi, c'est le jour de la Sainte Vierge parce que elle seule a tenu la foi dans l'Église. Il n'y avait plus que elle qui croyait dans la résurrection. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, elle a souffert une véritable agonie, un véritable martyr pendant cette journée seule. Et Don Guéranger, qui est un restaurateur bénédictin, raconte cette révélation de Sainte-Thérèse. Je vais vous la lire parce qu'elle décrit ce qui s'est passé ce samedi-là. L'accablement de la divine mère était si profond qu'elle n'eut pas tardé à succomber à son martyr et que lorsqu'il se montra à elle, au moment où il venait de sortir du tombeau, elle eut besoin de quelques moments pour revenir à elle-même avant d'être en état de goûter une telle joie. Et le Seigneur ajoute qu'il resta longtemps auprès d'elle parce que cette présence prolongée lui était nécessaire. Voilà, on comprend la résurrection et la fin de ce samedi. Le samedi, c'est donc bien la journée de la Sainte Vierge.
Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui freine ces premiers samedis du mois ?
Alors, on va dire que, pour reprendre l'expression du curé d'Ars, le Toto va, bien évidemment, il sait qu'il sera vaincu par Fatima. Ça, c'est une certitude. Et donc, il va faire deux choses. Il va essayer de susciter des diversions. Donc, autrement dit, on a vu une explosion d'apparitions, d'ailleurs que l'Église ne prend pas en compte, mais on parle de centaines, donc qui vont en fait faire une sorte de couvercle. Oui. Et on va parler de tas de choses et plus de Fatima. Et la deuxième chose, ça va être souvent l'orgueil, c'est-à-dire que Toto, il va essayer de nous donner des idées, hein, donc ce qu'on appelle la tentation sous apparence de bien. Faites plutôt une neuvaine, faites plutôt ceci, faites plutôt cela. Et on n'abandonne pas sa volonté au profit de la volonté de Dieu. Voilà, ça c'est très important. Il faut vraiment se dire, faire comme les serviteurs de Cana, eh bien, on obéit, on abandonne sa volonté et on fait celle de Dieu.
Bon, alors, nous avons tous pour mission d'aller voir notre curé et puis de lui proposer, enfin de lui dire, voilà, nous vous aidons à prendre les choses en main. Et alors, on en réfère à l'Alliance, comment est-ce qu'on fait ?
Alors, on a un rôle pour aider justement ce démarrage. On a appelé ça des groupes premier samedi du mois ou des cités premier samedi du mois. Et l'Alliance, vous avez compris, ce n'est pas un mouvement. C'est vraiment toutes les personnes de façon autonome qui vont créer leur propre groupe. Donc nous, on est là pour leur réexpliquer un petit peu les meilleures méthodes, comment en parler aux prêtres, etc. Donc ils contactent sur notre site, ils nous contactent, salve-corda.org. Et puis surtout, pour créer cette unité, chaque premier samedi du mois, les centaines de groupes qui existent aujourd'hui déjà en France et puis même dans le monde, eh bien, vont méditer le même mystère. Parce que ça donne une véritable unité. Et donc on publie une méditation chaque mois que nous envoyons à tous les gens qui s'inscrivent sur le site. Donc il y a juste un envoi d'une méditation par mois.
Merci beaucoup, Régis. Donc nous en reparlerons parce que je suis sûre que les groupes vont se multiplier. Et c'est tellement important en ces temps actuellement particulièrement. Merci Justina. À la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Au revoir Régis.
Merci. Voilà, eh bien merci beaucoup. Et puis rendez-vous donc pour ces 100 ans des premiers samedis du mois en 2025.
Absolument, vous reviendrez nous en parler. Au revoir.
Merci.